Bien-aimés frères et sœurs en la foi, bonjour. Vous savez que la parole de Dieu contient un bon nombre de paraboles, mais aussi des images, des comparaisons pour nous aider à comprendre les vérités de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit en une certaine circonstance « Regardez les oiseaux du ciel ». Et aujourd'hui, je vous invite à considérer quelques images que nous donne la parole de Dieu en ce qui concerne l'aigle. Nous allons découvrir ce que le Seigneur attend de nous et nous allons aussi découvrir certaines vérités importantes concernant la personne et l'action du Seigneur lui-même. Nous lisons tout d'abord dans le livre de Job, au chapitre 39 et à partir du verset 30. Job, chapitre 39, à partir du verset 30. L'Éternel dit à Job, « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. » Et vous aurez remarqué dans cette courte lecture les termes qui vont tous dans la même direction. L'aigle s'élève, il est question de son nid sur les hauteurs, il est question de la cime des rochers, il est question du sommet des monts. Et nous pouvons nous poser la question en ce qui nous concerne, nous chrétiens, quel est notre rocher, quel est l'endroit où nous devons demeurer, où nous devons faire, passez-moi l'expression, notre nid spirituel. Notre rocher, vous le savez, c'est Christ. Il est le rocher des siècles, il est le fondement inébranlable de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. Nous savons par l'Épître aux Éphésiens que le Seigneur Jésus habite dans les hauteurs, pour ne pas dire qu'il habite au point le plus haut. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 20, « Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. » Le Seigneur occupe une position de triomphe, d'autorité, de victoire parfaite et totale. Il y a bien évidemment une différence entre la vie de la terre, la vie sur la terre, et la vie de Dieu, celle des lieux célestes. Nous pouvons considérer le Seigneur Jésus dans son triomphe, avoir les regards de notre foi fixés sur lui. Il est au-dessus de toutes les puissances de l'enfer. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus des œuvres de Satan. Il est au-dessus des grands de ce monde, au-dessus des nations, au-dessus des maux qui frappent la terre. Il est au-dessus de nos souffrances, au-dessus de nos larmes, au-dessus de nos soucis, de nos épreuves. Et nous pouvons compter sur la miséricorde, sur l'amour, sur la compassion du Seigneur Jésus à notre égard. Ce n'est pas sans raison que dans son sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus nous donnait ces exhortations dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nous sommes appelés comme l'aigle à vivre sur les hauteurs, sur la cime de notre rocher, sur le sommet des monts spirituels. Nous sommes appelés à vivre dans l'atmosphère du ciel. L'apôtre Jean, pour sa part, nous laisse aussi cette exhortation que vous connaissez bien dans sa première épître au chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ça, c'est en bas, ça, c'est la terre. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. » Et nous sommes appelés alors à vivre bien plus haut dans l'atmosphère du ciel, « mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et nous nous souvenons encore de l'exhortation de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa lettre aux Colossiens au chapitre 3, verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau, si vous en avez terminé avec la vieille nature, le péché d'autrefois, si vous vous êtes repenti, si vous vous êtes converti à Dieu, si vous avez reçu du Seigneur une nature nouvelle, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Nous sommes appelés à faire notre nid sur les hauteurs. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis, dans son épître aux Philippiens, il écrivait ceci avec une note sérieuse de tristesse au chapitre 3, verset 19 de son épître aux Philippiens. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce sont des chrétiens déchus de la grâce qui en étaient arrivés à redescendre dans les choses terrestres misérables d'en bas. Et l'apôtre ajoute, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, les yeux fixés sur cette gloire finale, sur cette cité qui nous est réservée dans les cieux, affectionnons-nous aux choses d'en haut, plaçons notre nid sur les hauteurs. Il y a un texte très intéressant à la fin de la prophétie d'Habacuc. Dans le livre du prophète Habacuc, au chapitre 3, nous sommes au dernier verset de sa prophétie. Le prophète dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Habacuc, au sein de toutes les difficultés présentes, passées et futures, avait compris que sa force, sa victoire, sa joie, c'était de placer comme l'aigle son nid sur les hauteurs. Et c'est d'autant plus remarquable que dans le même chapitre 3 de sa prophétie, il écrit à propos de Dieu, « Le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. » Et notez bien ce qui suit, et ça nous parle dans le temps présent pour nous, « Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. » Et dans ce contexte-là, Habacuc a vraiment compris que sa sécurité, sa force, son ancrage, j'allais dire, pour une vie spirituelle forte, c'était de vivre sur les hauteurs. Et c'est pourquoi il dit « L'Éternel me fait marcher sur mes lieux élevés ». Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, posons-nous cette question « Où sont mes affections ? Où sont mes priorités dans le temps actuel ?» Que le Seigneur nous aide les uns et les autres à rechercher la présence de Dieu, à nous affectionner aux choses d'en haut, à placer notre nid sur les hauteurs. J'en reviens à l'aigle. Il y a un autre texte, le premier, je l'ai lu dans le livre de Job, il y en a un autre dans le livre du prophète Ésaïe. Et c'est au chapitre 40, le verset 29 et jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, verset 29. Il est dit de l'Éternel, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Écoutez bien, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous avons ici le triomphe de la foi qui est placé dans le Seigneur. Il est question de ceux qui se confient en l'Éternel. Et il est dit de cela qu'il remporte une victoire sur la fatigue, sur la défaillance, sur la lassitude, que ces hommes et ces femmes de foi ne chancellent pas. La foi leur donne de la force, elle renouvelle leur force. La foi leur donne de la vigueur, et le Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, prend à nouveau l'image de l'aigle, ils prennent le vol comme les aigles. Et vous savez très bien que lorsque on prend son vol, les choses d'en bas deviennent vraiment petites. On peut se trouver au pied de la tour Eiffel, et elle nous paraît grande et à juste titre, mais si on prend l'avion et que on survole le même monument, il va nous paraître insignifiant. Et quand, dans la foi, nous prenons notre vol comme les aigles, quand, avec la grâce de Dieu, nous apprenons à placer notre confiance en lui, alors, oui, nous prenons notre vol comme les aigles, et les choses qui, en bas, semblait nous écraser, nous impressionner, nous intimider, nous dominer, eh bien nous les dominons. Il y a un renversement de situation, en prenant de la hauteur, nous devenons des vainqueurs. La foi nous fait voir les choses à leur vraie dimension devant Dieu. Il y a ce que nous voyons avec nos yeux charnels et parfois les yeux de nos doutes ou de notre incrédulité, et les mêmes choses sont vues par le Seigneur d'une façon différente. Et il faut que nous apprenions à prendre notre vol comme les aigles pour voir comme Dieu voit, pour apprécier les choses comme Dieu les apprécie, pour les mesurer à leur juste dimension, comme Dieu, lui, les mesure. La foi va nous permettre d'évaluer la puissance de Dieu devant toute adversité, la puissance de Dieu dans nos épreuves. La foi va nous amener à puiser en Christ toute la force dont nous avons besoin, alors que l'épreuve, elle, voudrait pomper nos forces, nous vider de nos forces. Il faut que nous retenions cette grande leçon de l'Écriture: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles. J'en viens maintenant à un texte du Deutéronome qui nous parle également de l'aigle. Dans le livre du Deutéronome, je vais lire au chapitre 32 et au verset 11. Il est question, là encore, de l'Éternel, et il est dit: « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » La parole de Dieu dit donc ici que l'aigle éveille sa couvée. La version Tob dit qu'il encourage sa couvée. Et le texte littéral hébreu dit qu'il réveille sa nichée. C'est ce que Dieu fait avec ses enfants. Nous ne devons pas en rester à quelques petites grâces, à quelques petites bénédictions, nous figer sur les expériences que nous avons pu faire et nous laisser stopper dans quelques conforts spirituels. Le Seigneur, lui, veut travailler à notre perfectionnement. Il veut travailler à notre croissance spirituelle. Il vise nos progrès et il désire ardemment que nous arrivions à un stade de vraie maturité spirituelle, pardon, ce que l'apôtre Paul appelait la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand nous nous convertissons, nous sommes des nouveau-nés en Christ, des bébés spirituels, mais l'objectif du Seigneur, c'est de nous faire grandir pour que nous arrivions à être des hommes faits dans le domaine de la foi. Alors, comment est-ce que l'aigle éveille, encourage, réveille sa nichée? La nature a quelque chose de merveilleux à nous enseigner ici. Dans le fond du nid, l'aigle va mettre des cailloux tranchants, des pierres et des épines. Et dessus tout cela, il met des éléments très doux, peau de lapin, peau d'agneau, des plumes, des éléments douillés. Quand les petits sont là, ils ne pensent pas à sortir du nid. Pourquoi faire? Ils se sentent si bien. Ils sont là dans une atmosphère très douillette, très confortable. Pourquoi aller chercher ailleurs? Ils se sentent si bien dans le nid. Et ce phénomène naturel nous parle de nos débuts de notre vie avec Dieu. Vous vous souvenez des premières semaines, des premiers mois, il y a eu pour la plupart d'entre nous une atmosphère douillette. Le Seigneur nous faisait sentir sa présence, nous prions et dans sa bonté, Dieu se hâtait de nous exaucer, que de bénédictions rapides reçues du Seigneur. Bref, c'était les peaux de lapin, les peaux d'agneau, les plumes, les éléments douillés. Et c'est vrai que on se sentait bien. Et en ce qui concerne l'aigle et sa nichée, Vient alors le moment où les petits ayant grandi, avec son bec, l'aigle enlève tout ce qui est douillé et il le jette en bas du nid. Et à ce moment-là, les petits se trouvent au contact de ce qui était au fond du nid, les cailloux tranchants, les pierres et les épines. Quel est l'enseignement ici? C'est que, après nous avoir placé, et ce qui était normal, dans une atmosphère douillette, Dieu va permettre certaines difficultés dans notre vie pour nous amener plus loin. Je reprends l'image de la nature. Dieu va enlever tous les éléments doux, et là, au fond du nid, il va permettre que nous soyons au contact des cailloux tranchants et des épines. C'est au fond ce que l'apôtre Pierre a exprimé dans un langage spirituel, dans sa première lettre au chapitre 5 et au verset 9, en parlant du diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, il exhorte les chrétiens en ces termes: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et écoutez bien ce qu'il ajoute. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons les yeux fixés sur la gloire éternelle qui vient. Mais en attendant la gloire qui vient, le Seigneur va travailler, comme dit Pierre, à nous perfectionner, à nous affermir, à nous fortifier et à nous rendre inébranlables. Comment ? En permettant que nous souffrions un peu de temps. C'est-à-dire que Dieu va permettre des événements, des circonstances qui vont nous amener à affronter l'épreuve, les difficultés, la tribulation de plein fouet. Et le Seigneur espère bien qu'au travers de ces choses-là, nous réagissions de la bonne manière pour nous laisser façonner par lui. Nous connaissons aussi ce texte de l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si les aiglons pouvaient parler, je ne pense pas qu'ils se réjouiraient d'être au contact des cailloux tranchants et des épines au fond du nid. » Et en ce qui nous concerne, nous avons là un effort à faire sur nous-mêmes, à manifester une sainte réaction dans notre vie avec le Seigneur pour apprendre à considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Pourquoi ? Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu va nous perfectionner. Dieu va nous affermir. Dieu va nous amener à grandir. Et Jacques ajoute, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous avons là la pédagogie de Dieu qui, de petits enfants que nous étions dans la foi, veut nous amener à être des hommes faits. Et dans la première épître de Pierre, à nouveau, au chapitre 1er, verset 6, l'apôtre vient de parler du royaume qui nous est réservé dans les cieux, un royaume qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et dans la perspective de ce royaume-là, il dit « c'est là ce qui fait votre joie ». Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, les chrétiens de Jérusalem, au tout début de la première église, étaient dans un nid relativement douillé. C'est vrai que tout n'était pas facile. Les apôtres ont eu des interdictions d'évangéliser. Il y a eu des emprisonnements de quelques jours. Tout n'était pas facile. Mais globalement, on peut dire que le nid était relativement douillé. Il y avait quand même des milliers de conversions. Il y avait des miracles, il y avait des prodiges. Et le nid était tellement douillé que les chrétiens restaient à Jérusalem et qu'ils en avaient oublié la grande mission que le Seigneur Jésus leur avait confiée avant de remonter au ciel. Vous serez mes témoins à Jérusalem, mais pas seulement, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour ramener son Église dans la prise de conscience de sa grande mission planétaire? Eh bien, Dieu va secouer tous les éléments douillés, il va les jeter hors du nid pour obliger les chrétiens à franchir une étape nouvelle. Dieu va permettre une persécution farouche des chrétiens à Jérusalem. On sait que Étienne va être le premier martyr. On sait comment Saul de Tarse va déployer toute son énergie pour s'attaquer aux chrétiens, et les chrétiens vont être obligés de sortir du nid. De Jérusalem, ils vont aller en Judée, de la Judée, ils vont aller en Samarie, c'est le cas de Philippe l'évangéliste. Une église va être fondée en Samarie, et puis on va remonter jusqu'au nord, où une église très forte va être fondée à Antioche. Jérusalem sera un centre spirituel pour le sud, Antioche en sera un pour le nord, et c'est de là que les grandes entreprises missionnaires vont éclater vers l'Europe. Il était indispensable que le Seigneur agisse pour que les petits sentent les épines et les cailloux tranchants au fond du nid et aillent plus loin. Si je reviens, pardon, au texte du Deutéronome, il est parlé du Seigneur qui éveille sa couvée, mais il est dit également, je reprends le chapitre 32 du Deutéronome, il est dit également qu'il voltige sur ses petits. Verset 11, il voltige sur ses petits. Et le texte hébreu dit littéralement, il plane au-dessus de ces jeunes oiseaux. Les petits, au contact des épines et des cailloux tranchants, commencent à se plaindre. Ils sont mal à l'aise. Et là, ils doivent regarder vers les parents, je mets les parents entre guillemets, ils doivent regarder vers les parents, sentir qu'ils sont là. Et là, et l'aigle va faire quelque chose de très instructif. Il va voltiger pour que les petits regardent à lui, à sa force, à sa grandeur, à sa présence. Il déploie ses ailes. La version Tob dit « il déploie toute son envergure ». Et sur le plan spirituel, pour ce qui nous concerne, c'est ce que le Seigneur fait. Dans nos moments d'épreuve, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de grande difficulté, nous l'avons tous expérimenté, le Seigneur, de diverses manières et au travers de divers moyens, nous fait sentir qu'il est là. Et il agit pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous consoler. Il nous montre sa force, il nous montre sa grandeur. La parole de Dieu fait souvent allusion aux ailes du Seigneur. Nous pensons à cette prière du psalmiste, psaume 17, verset 8, « Protège-moi à l'ombre de tes ailes ». Et puis, l'aigle poursuit son éducation, si j'ose dire. La parole de Dieu nous dit que l'aigle, toujours dans le Deutéronome chapitre 32, verset 11, l'aigle prend donc les petits, il les prend et il les porte sur ses plumes. Alors, il faut savoir quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'avec ses serres ou son bec, l'aigle fait avancer les petits au bord du nid. Du bord aux ailes de l'aigle, il n'y a qu'un pas. Les petits vont monter sur les ailes ou sur le dos de l'aigle. Un pas nouveau est franchi. La leçon est précieuse pour nous, chrétiens. Le Seigneur, pour notre développement, pour notre perfectionnement, désire nous porter. Oui, il va nous porter. Nous allons être pris par lui, portés par le Seigneur. Et nous allons prendre alors de l'altitude, parce que c'est ce que fait l'aigle avec ses petits sur ses plumes ou sur son dos. Il prend de l'altitude. Et les petits vont découvrir alors un monde qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils étaient simplement dans l'environnement de leur nid. Le Seigneur désire élargir notre vision spirituelle, il désire nous faire entrer dans de nouvelles révélations. Et pour cela, dans sa grâce, il nous porte et il nous fait prendre de l'altitude. Quand le Seigneur appelle à Israël la manière dont il l'a délivré de l'Égypte, le Seigneur dit ceci dans l'Exode au chapitre 19 et au verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est toute l'éducation du Seigneur à notre égard. Il nous porte et son désir, c'est de nous amener vers lui, de nous faire grandir dans notre communion, dans notre intimité avec lui. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes maintenant sur les hauteurs. L'aigle a ses petits sur ses ailes ou sur son dos et il a pris de la hauteur. Et vous savez ce que l'aigle va faire à ce moment-là ? Il fait un mouvement pour que les petits tombent dans le vide. Et à ce moment-là, le petit ou les petits vont avoir un réflexe naturel, c'est qu'ils vont se servir de leurs propres ailes pour voler. Et je voudrais ici attirer votre attention sur quelque chose de très important. Les petits, jusqu'alors, possédaient quelque chose d'essentiel que la nature leur donne, ils possédaient quelque chose d'essentiel dont ils ne se servaient pas parce qu'ils restaient dans le nid. Mais quand ils sont placés dans un autre environnement, maintenant ils ont pris de l'altitude, ils sont dans les airs, l'aigle est en train de faire leur éducation, il les fait tomber, à ce moment-là, les petits doivent faire une découverte, c'est qu'ils possèdent quelque chose dont ils ne se servaient pas et qui va leur être maintenant d'une grande utilité. Tant que nous sommes dans une atmosphère douillette, facile, il y a des richesses, il y a des armes, il y a un potentiel que Dieu a mis à notre disposition et dont nous ne nous servons pas, tout simplement parce que nous n'en avons pas besoin. Et le Seigneur dispose alors des événements, des personnes, des circonstances pour nous amener a réalisé qu'il nous a donné des éléments puissants dont nous ne nous servions pas, mais qui vont être des armes efficaces dans notre développement spirituel. Je veux parler, bien évidemment, de la foi, on y a fait allusion tout à l'heure, mais Dieu va nous faire découvrir la puissance et l'efficacité de la prière. Dieu va nous faire découvrir toutes les ressources qu'il y a dans la personne et le ministère du Saint-Esprit, tout le potentiel qu'il y a dans le revêtement de puissance, dans le baptême du Saint-Esprit. Pour ne parler que de ces éléments-là, il y en a une multitude d'autres, mais vous les connaissez, vous savez très bien ce que je veux dire. L'épreuve nous amène à découvrir ces richesses-là, et je dis béni soit Dieu pour les épreuves, béni soit Dieu pour l'école de l'Éternel, béni soit Dieu pour la pédagogie de notre Seigneur qui nous fait sortir du nid, qui nous oblige à sortir d'une atmosphère de confort pour nous placer dans des circonstances où nous allons nous perfectionner. Maintenant, si un aiglon tombe, l'aigle le voit et il va fondre sur lui rapidement. Et vous savez ce qu'il fait? Il se place en dessous, il le récupère, et c'est pas pour le ramener dans le nid, oh non, il le récupère, il le remonte, il reprend de l'altitude, il fait à nouveau un mouvement pour que l'aiglon retombe, qu'il recommence l'éducation, qu'il apprenne la leçon jusqu'à ce que il va vraiment se servir de ses ailes pour voler comme il se doit dans la maturité de l'aigle. Vous avez en mémoire ce que Jude écrit dans sa lettre au verset 24. Il dit à propos du Seigneur, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Dieu ne permet pas que nous chutions, il peut nous préserver de toute chute, mais il peut, par contre, nous placer dans des circonstances où nous allons devoir réaliser ce qu'il met à notre disposition pour triompher. L'apôtre Paul a aussi écrit dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 3, il a écrit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. » La Bible en français courant d'ailleurs dit à propos de l'aigle qu'il étend ses ailes au-dessous de ses petits et il les retient s'il tombe. Je vais terminer en revenant au texte qui a été lu au début de notre message dans le livre de Job au chapitre 39. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur les versets 32 et 33. Job chapitre 39, les versets 32 et 33. Et je lis ceci. Alors que l'aigle est sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, de là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards, ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Des hauteurs, l'aigle épie sa proie, et la parole de Dieu nous dit qu'il plonge au loin ses regards. Et c'est vrai que l'aigle a une vue très perçante. En ce qui concerne cette parole de l'Éternel à Job, là où sont des cadavres, l'aigle se trouve, vous avez en mémoire une parole du Seigneur Jésus dans son grand discours eschatologique de Matthieu 24. Le Seigneur parle des signes de son retour et il dit ceci dans Matthieu 24, verset 28. Il reprend le texte de Job. « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Mais de quoi est-ce que Jésus parle avant? Si je lis le verset qui précède, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Il parle de son retour. Et dans le prolongement, une parole étonnante, « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Jésus vient de parler de ce moment où il va apparaître glorifié. Alors c'est vrai que là où il sera, nous y serons, puisque le Seigneur va enlever son Église à sa rencontre en un clin d'œil. Et l'apôtre Paul dit dans sa première épître aux Thessaloniciens que nous serons toujours avec le Seigneur. Mais alors, pourquoi parler du cadavre alors que Jésus revient glorifié, resplendissant de magnificence? Parce que là où Jésus s'est trouvé crucifié, excusez-moi de dire dans ces termes-là, là où a été le cadavre, nous y sommes venus. Nous nous sommes rassemblés là, à la croix, ce qui fait l'unité des vrais chrétiens, l'unité de la véritable Église, c'est qu'elle est constituée d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, qui ne sont pas descendus dans le baptistère parce qu'ils ont été conquis par une ambiance, par une atmosphère musicale, par une sympathie, par le dévouement d'accueil d'un club chrétien. Mais ils sont passés par une véritable repentance, une véritable conviction de péché. Ils se sont convertis à Dieu, ils ont fait un demi-tour vers Dieu, tournant le dos au monde, tournant le dos à la souillure. Ils ont reçu de Dieu une vie nouvelle. Ils sont nés de nouveau. Ils sont passés des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Là, les petits que nous étions, nous avons bu le sang. Là où a été le cadavre, là nous nous sommes assemblés et nous avons saisi toute la splendeur de la croix, toute la puissance de la croix, toute l'efficacité du sacrifice de Jésus qui disait « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors oui, là où a été le cadavre, là se sont assemblés les aigles, nous sommes venus là, nous avons bu le sang, nous avons reçu la vie du Seigneur, et lorsque l'agneau crucifié va apparaître comme l'agneau glorifié, alors celui qui nous a rassemblés au pied de sa croix nous rassemblera dans sa gloire. Là où a été le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit de l'aigle, de là il épie sa proie, permettez-moi de vous dire en terminant que nous avons des proies encore à saisir. Le Seigneur a encore une multitude de grâces, de bénédictions en réserve pour tous les siens à l'échelle planétaire. Il y a des proies à saisir et si nous vivons avec Jésus dans les lieux célestes, puisqu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, de là Nous allons plonger nos regards et nous allons dire, oui Seigneur, je réalise qu'il y a encore cette victoire-là à saisir, ce triomphe-là à embrasser par la foi, et le Seigneur va triompher pour nous. Nous allons triompher en lui. Permettez-moi de souligner que les aigles sont forts, les muscles sont durs, ils peuvent voler contre la tempête. Que sera notre vie dans ces temps difficiles qui viennent? Je dis que si nous retenons l'enseignement de Dieu, l'enseignement de sa parole, tel que nous l'avons fait ce matin, oui, nous serons forts, oui, nous tiendrons, parce que le Seigneur a le pouvoir de nous tenir, de vous tenir, mon frère, ma sœur, jusqu'à la fin. Amen.